président. Alors, je vais assumer mon rôle de juriste, je vais baisser le niveau. Et je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs pour leur invitation, les organisatrices. Je les remercie d'autant plus pour leur libéralité, puisqu'il était convenu, et j'espère qu'ils n'ont pas changé d'avis, que je poserai, à travers l'intitulé de cette intervention, une question à laquelle je m'engageais à ne pas répondre. Cette question se pose de manière assez simple. L'institution est-il un concept juridique? Et je me rends compte, j'aurais peut-être pu préciser, l'institution politique est-il un concept juridique, pour qu'il n'y ait pas de compris sur la marchandise. Avant d'expliquer pourquoi je ne tenterai pas spécifiquement de répondre à cette question, ou plutôt pourquoi la question mérite selon moi d'être posée en d'autres termes, je souhaiterais rappeler à titre liminaire à quel point le mot même d'institution est complexe. Chacun sait, ou du moins il a une idée de ce qu'est une institution, mais du moins peu, et c'est en tout cas mon cas, sont capables de la définir en des termes analytiques. On serait même parfois tenté de penser que l'institution relève du domaine du sensible et non nécessairement de l'intelligible, ou n'est-ce d'ailleurs pas l'inverse. Je le concède donc aisément, moi, simple juriste, je suis bien incapable de définir cette notion. Mais je trouve quelques réconforts lorsque je constate à quel point ce mot est utilisé de manière souple. On parle ainsi d'institution pour qualifier le Parlement ou la seule Assemblée nationale, l'université, le mariage ou encore la S. Saint-Étienne. Ce dernier exemple est peut-être d'ailleurs le plus révélateur de l'ambiguïté du terme. On glorifiera ainsi par ce qualificatif un vieux club de football, sa riche histoire, sa légende, ses victoires, les poteaux carrés, je s'adresse à Olivier pour renseignement complémentaire. Et l'on opposera à ce qui n'est pas digne de ce terme, un club de football prétendument nouveau, monté artificiellement à coup de pétrodollars. Ce dernier exemple, étrangement, est révélateur de l'ambiguïté du terme institution. L'institution, c'est un présent enrichi par le passé. C'est quelque chose dont on peut comprendre l'importance sans référence à une expérience, à une histoire aussi idéalisée puisse-t-elle être. Cette référence nécessaire aux origines se manifeste évidemment dans les différentes acceptions de ce terme, dont il convient de rappeler banalement qu'il est polysémique. L'institution, c'est à la fois un processus, celui d'instituer quelque chose, et un produit ou un résultat. L'institution est ce qui est institué. Or, cette relation très particulière entre la création, et donc les origines, et la créature, me semble évidemment très importante et féconde pour les juristes. Elle permet de lier un objet juridique à son histoire, c'est-à-dire non seulement d'en définir le contexte, mais également de le penser comme un objet mouvant. Et cela, alors même que la logique juridique tend parfois à figer le droit, à le geler, à le rigidifier. Pour le dire plus simplement, l'institution permet pour le juriste de penser et d'admettre le changement dans la continuité. Évidemment, une telle position n'est pas nouvelle et elle a été défendue au début du XXe siècle par Maurice Oriou dans ses divers écrits que l'on rassemble souvent dans une théorie de l'institution. Or, Oriou est précisément connu chez les juristes pour avoir soutenu la thèse de la juridicité de l'institution. Pourtant, les conceptions du droit ont elles aussi évolué depuis Oriou, et l'on peut constater aujourd'hui que l'enseignement du droit semble dominé par des approches positivistes, voire normativistes, qui tendent, du moins en France, qui tendent à réduire le droit aux seules normes spécifiquement juridiques, c'est-à-dire répondant à certains critères déterminés permettant d'identifier la spécificité du droit par rapport aux autres formes de normativité sociale. C'est d'une certaine manière un peu le projet qu'elle est. J'en reviens donc à la raison pour laquelle je me refuse de répondre à la question de la nature juridique du concept d'institution. Cette question appelle une autre question à laquelle je n'ai aucune prétention ni envie de répondre, à savoir qu'est-ce que le droit ? Le fait de retenir une définition plus restrictive du droit déterminera la réponse. L'institution n'est pas un concept juridique. On remarquera d'ailleurs que la doctrine juridique et plus largement les milieux universitaires ont pu par moments se satisfaire d'une telle division du travail. Aux juristes, le droit, et notamment le droit constitutionnel, aux politistes, l'étude des institutions politiques. On voit que, sur ce point, au travail de Jacques Chevalier, quelques articles qui sont notamment dans les mélanges Pierre Avril, qui sont assez intéressants. Ma seule ambition ici sera de reposer la question en des termes que j'espère clairs et de montrer le caractère problématique au-delà des champs disciplinaires. Car la question de la nature juridique de l'institution se manifeste plus spécifiquement lorsque les institutions, et je réduirai désormais mon propos aux institutions politiques, lorsque donc les institutions produisent des règles et d'éventuelles normes. Ce que l'on appelle donc, on peut appeler les pratiques institutionnelles. Or, en posant la question de la nature juridique ou non des institutions dans cette perspective, donc celle des pratiques, on remarque une rivalité potentielle entre les lectures juridiques et institutionnelles de ce qu'on peut appeler, pour rester neutre, le phénomène constitutionnel. Et j'essaierai de clore mon propos en montrant que ces deux lectures peuvent apparaître complémentaires, ce qui en soi n'est pas un peu. Alors, il peut paraître surprenant d'envisager le problème de la juridicité de l'institution du point de vue de la pratique, c'est-à-dire des règles elles-mêmes créées par les institutions politiques. C'est d'autant plus surprenant que la grande majorité des systèmes constitutionnels sont des systèmes de droit écrit dans lesquels la question de la normativité des règles relatives aux institutions se pose de manière moins saillante, puisqu'un texte juridique écrit, la Constitution, est réputé prévoir les règles gouvernant donc les institutions. C'est presque naturellement dans un autre modèle constitutionnel que la question se pose plus spontanément, c'est au Royaume-Uni. Comme on le sait, le Royaume-Uni ne dispose pas d'un tel texte écrit et constitutionnel. D'autant plus intéressant qu'on dit assez souvent que, précisément au Royaume-Uni, il y a des institutions avant d'avoir une constitution ou avant d'avoir du droit constitutionnel. Alors, je me réfère ici au concept, évidemment, de convention de la constitution, qui est un concept qui a été formalisé par le juriste britannique, le professeur à Oxford, Albert Dicey, dans son ouvrage de 1885, « An Introduction to the Study of the Law of the Constitution ». Dicey cherche à découvrir la vraie nature du droit constitutionnel. Et de ce fait, il constate qu'il existe deux sortes de normes ou de règles qui composent la Constitution anglaise. Des règles juridiques écrites d'un côté, et d'ailleurs non écrites aussi, qui sont appliquées, qui sont sanctionnées par les juges, puisque on est dans un système de common law, et que c'est là le véritable critère du droit. Et de l'autre côté, des règles qui ne sont pas strictement juridiques, car elles ne sont pas appliquées ni sanctionnées par le juge. Donc, la Constitution anglaise est composée d'un noyau strictement juridique, qu'il appelle le droit de la Constitution, et d'usages de pratiques qui relèvent de la moralité constitutionnelle, à savoir donc ces conventions de la Constitution. Bon, il s'agit juste ici de remarquer, avant tout, que le fait qu'une règle soit ou non juridique ne présume pas de son importance. Par exemple, Dicey est le premier à le remarquer, par exemple, le fait que la reine soit tenue de promulguer la loi adoptée par le Parlement, alors j'utilise un vocabulaire républicain, donc promulguer, donner son assentiment royal, le fait que donc la reine soit tenue de promulguer la loi adoptée par le Parlement n'est pas une règle juridique, c'est une convention de la Constitution. Évidemment, il s'agit là d'une règle fondamentale, garante du caractère démocratique du régime britannique. Dès lors, pour forcer un peu le trait, il apparaît que la démocratie britannique repose notamment sur une règle qui n'est pas strictement juridique, mais qui apparaît au contraire comme une simple pratique. Or, que sont ces règles donc, si ce n'est des pratiques établies par les institutions elles-mêmes, et au premier rang desquelles le Parlement, visant donc à limiter ou organiser l'exercice de leur pouvoir. On remarquera, à titre incident, que de telles règles apparaissent également dans d'autres modèles constitutionnels et notamment dans des systèmes de droit écrit. Oriou est d'ailleurs le premier à remarquer que les institutions politiques produisent un droit que l'on pourrait qualifier d'interne, c'est-à-dire un droit qu'il appelle statutaire, pour le dire simplement, les règlements des assemblées qui n'ont pendant longtemps, en droit français comme ailleurs, n'ont pas eu de statut juridique. Or, précisément, c'est l'objet de la théorie de l'institution d'Orioux que de dégager certains critères de l'institution qui permettent dès lors déterminer la nature même, les critères même donc, de l'institution. On mentionnera ici deux caractéristiques principales, à savoir l'historicité et la rationalité donc, de l'institution. En ce qui concerne l'historicité, Orioux rappelle qu'une organisation, et je le cite, une organisation quelle qu'elle soit, ne peut aspirer à la dignité d'institution que si elle se montre durable et permanente, c'est-à-dire si elle se perpétue avec un mouvement uniforme. On retrouve donc ici une conception organiciste de l'ordre social, développé par Orioux, qui définit d'ailleurs cet ordre social comme un système animé d'un mouvement lent et uniforme dont la forme se maintient malgré le renouvellement continuel de la matière. De ce point de vue, donc de ce critère, dans la perspective de ce critère historique, la théorie institutionnelle d'Orioux est avant tout une théorie de la fondation. C'est d'ailleurs le titre qu'il donne à l'article qu'il consacre à cette question. Pour citer d'ailleurs encore Orioux, la durée d'une institution n'est pas la pérennité, mais il est bon qu'elle s'annonce comme supérieure à celle d'une génération humaine, une œuvre qui, quoique bien organisée, ne paraîtrait pas devoir survivre à son fondateur, ne serait pas une institution. Pourtant, l'argument historique ne saurait suffire. Georges Burdeau a pu ainsi dire cette très jolie citation, très amusante citation, « On ne dira pas d'un édifice qu'il est millénaire sous prétexte qu'il est fait de rocs qui ont attendu pendant des siècles, dans la carrière, le ciseau du tailleur de pierre. » L'histoire ne suffit pas. On le comprend donc, il faut autre chose. L'argument historique donc ne vient qu'à l'appui d'un autre argument, qui est celui de la rationalité de l'institution. Pour Orioux, celle-ci est avant tout la mise en œuvre d'une œuvre, c'est-à-dire d'une idée directrice que le droit vient précisément, réaliser. À ce titre, les règles juridiques, et notamment les pratiques, ne sont que des moyens au service d'une fin. L'histoire, la tradition qui fonde l'institution, n'est donc pas une histoire factuelle, c'est une histoire augmentée, enrichie par la raison, par une direction. On voit donc ici se développer une lecture des institutions et donc de la pratique institutionnelle qui ne saurait se limiter à chercher le pédigré de la norme juridique, c'est-à-dire elle ne saurait se limiter à une appréhension du phénomène constitutionnel en des termes strictement juridiques et formels. En effet, le droit constitutionnel, et notamment le droit conçu comme un ensemble de normes juridiques, semble développer une logique qui est différente, qui lui est propre, et qui, pour le dire simplement, n'a pas besoin de la lecture institutionnaliste. Je vais montrer cette rivalité avec donc, la lecture strictement juridique, entendue de manière assez simpliste, comme une lecture positiviste ou normative. Ce que le droit cherche, le juriste, stricto sensu, n'est pas une fondation, mais un fondement, c'est-à-dire une explication logique qui justifie, ou plutôt qui atteste, de l'existence d'une règle. Car le droit, dans son acception positiviste, s'explique de manière assez logique et donc déploie un ensemble de concepts qui semblent inutiles à la compréhension institutionnelle du phénomène constitutionnel. La logique juridique n'a pas besoin d'institution. Elle dispose du concept d'organe. Un organe est habilité à produire des règles juridiques
Et le caractère juridique de ces normes résulte de la qualité et donc des titres de l'auteur lui-même. C'est la Constitution, donc, c'est-à-dire une norme juridique, qui confère à l'organe sa capacité à agir et à produire du droit. Donc la logique juridique ne recherche pas de fondation, ne recherche pas d'origine historique, elle recherche donc un principe logique, un fond. A l'inverse, donc, la lecture institutionnaliste nous semble donc raisonner de manière différente. Il ne s'agit pas de raisonner en termes d'organes, ni de validité de la norme juridique, car cette vision strictement juridique des choses perd quelque chose, perd une vérité. Une constitution ne saurait être comprise exclusivement comme un instrument de pouvoir, ou pour recourir à une notion plus continentale et contemporaine, comme une norme d'habilitation. Une constitution, c'est également et nécessairement l'instrument d'un principe de légitimité, c'est-à-dire, pour recourir, là encore, à une notion plus ancienne et peut-être un peu dévoyée, à une notion d'autorité. En effet, l'idée d'autorité nous semble pertinente pour penser la Constitution du point de vue de sa légitimité, en ce qu'elle peut précisément être distinguée de la compétence ou du pouvoir qui est détenu par l'organe. Et à ce titre, la théorie de l'institution et de la fondation d'Oriou nous semble pouvoir être rapprochée des écrits d'Anna Arendt sur la crise de l'autorité, et qui écrivait à ce titre à propos du droit romain: la tradition préservait le passé en transmettant d'une génération à la suivante le témoignage des ancêtres qui, les premiers, avaient été les témoins et les créateurs de la fondation sacrée. Ils l'avaient ensuite augmentée par leur autorité à travers les siècles. L'auctoritas revêt ainsi un caractère impératif. Je cite encore Anna Arendt: au cœur de la politique romaine, dans le début de la République jusqu'à la fin de l'ère impériale, se tient la conviction du caractère sacré de la fondation, au sens où une fois que quelque chose a été fondé, il demeure une obligation pour toutes les générations futures. Comme le relevait Anna Arendt, je la cite encore et j'arrête après, puisque l'autorité requiert toujours l'obéissance, on la prend souvent pour une forme de pouvoir ou de violence, pourtant l'autorité exclut l'usage de moyens extérieurs de coercition, là où la force est employée, l'autorité proprement dite a échoué. On le constate ici, la différence avec le droit apparaît assez nettement. L'organe, dans une lecture juridique, détient ses pouvoirs d'un procédé juridique, celui de l'habilitation. Les règles que l'organe édicte trouvent une sanction particulière, celle de la sanction, c'est-à-dire la sanction juridictionnelle. C'est particulièrement vrai dans les systèmes de common law, la règle de droit est du droit parce qu'elle est sanctionnée par un juge. Mais à l'inverse, la force, et c'est un peu la thèse que je voudrais défendre ici, la force des règles produites par les institutions politiques, si l'on accepte cette lecture institutionnaliste, provient avant tout de l'autorité de l'institution. Le critère de la règle produite par l'institution, dans ce cadre, ne provient pas nécessairement de sa sanction, et je laisse ici, puisqu'on peut évidemment y voir des formes de sanctions sociales ou politiques, mais à mon avis, sa force vient de sa qualité, c'est-à-dire de la vertu propre de son auteur, de cette autorité. Mais on peut, je le pense, déployer une telle lecture institutionnelle plus avant. Comment expliquer, en effet, cette autorité ? Non par la coercition, encore une fois, puisque c'est ici un critère inopérant. Mais peut-être par une autre notion, qui est à mon avis une piste de réflexion pour la théorie constitutionnelle, à savoir celle de reconnaissance. Et on peut en effet ici penser, et développé un petit peu par Carlos Miguel Pimentel, que la sphère de reconnaissance devient inséparable de la question de la légitimité, si on accepte de la comprendre précisément comme conformité de ce qui est avec ce qui doit être, comme un rapport diamétralement opposé à celui qui prévaut dans la sphère normative. La règle produite par l'institution trouve alors non sa validité relève donc d'une lecture juridique du phénomène constitutionnel, mais bien de sa légitimité et donc de sa reconnaissance par la communauté politique. Pour donc conclure sur ce point, une telle lecture institutionnelle apparaît en grande partie subversive au regard de la théorie juridique, car elle s'appuie sur d'autres outils, d'autres concepts que ceux auxquels nous, juristes, sommes habitués. Elle nous semble donc rivale et donc alternative de cette lecture strictement normative du phénomène constitutionnel. Mais elle a le mérite de replacer la pratique institutionnelle dans une œuvre, c'est-à-dire dans une histoire dotée d'un sens. Le problème d'un tel constat est que ces deux lectures distinctes du phénomène constitutionnel pourraient avoir pour résultat de nous contraindre à choisir entre les deux en admettant la dualité des interprétations. Donc l'une fondée sur le droit strict, sur la pure logique juridique, qui conduirait, puisque les pratiques institutionnelles sont des règles créées en dehors du droit, les exclure de la sphère juridique. Évidemment, puisque elle se crée en dehors du cadre logique, qui est celui de l'habilitation, habilitation par un organe à édicter des règles. L'autre logique, donc la lecture institutionnelle, a le mérite de permettre de reconnaître toute leur dignité à ces pratiques. C'est malheureusement le dilemme auquel le juriste semble malheureusement condamné. Pourtant, et je souhaiterais conclure mon propos sur ce point, ces deux lectures me semblent, et sans d'ailleurs que ça ne remette en cause ce qui a été dit, complémentaires. Cela revient à dire que souvent, les règles institutionnelles et juridiques peuvent être combinées de manière relativement harmonieuse. Tout d'abord, il me semble important de remarquer que les pratiques institutionnelles n'ont pas besoin d'être juridique. Il s'agit ici de méditer une formule du juriste anglais Casey Weir qui donc, écrit, je le cite, « Le choix entre les règles de droit strict et les règles non juridiques, et en particulier entre la loi et la convention, la Constitution donc, est déterminé par des considérations variées. Il est clair que certaines règles constitutionnelles ne peuvent être traduites en termes législatifs. Il est clair que d'autres, pour une question de souplesse, ne doivent pas être retranscrites juridiquement. Certaines pratiques institutionnelles sont donc volontairement ajuridiques. Je prends un exemple tiré de l'actualité très récente au Royaume-Uni, et des rapports quelque peu houleux qui existent aujourd'hui entre le Royaume-Uni ou l'Angleterre et l'Écosse. Il existe en effet une convention de la Constitution, donc une pratique institutionnelle, qui régit les rapports entre le Parlement britannique et le Parlement écossais, qui dispose de compétences législatives et donc d'une certaine autonomie politique depuis 1998, c'est ce qu'on appelle donc la dévolution. Il y a une répartition des compétences entre le Parlement britannique et le Parlement écossais. En vertu du droit constitutionnel, cette autonomie demeure assez précaire puisque le Parlement britannique peut toujours légiférer dans des matières qui relèvent, qui ont été concédées au Parlement écossais. Pour le dire simplement, il s'agit d'une sorte de fédéralisme qui ne repose que sur la bonne volonté, au fond, du Parlement britannique. Or, donc, existe depuis les débuts de la dévolution et dès 1998, une pratique établie, une convention de la Constitution, qu'on appelle la convention Sewall, du nom sous-secrétaire d'État qui l'avait présentée au Parlement, enfin, qui l'avait formulée. Donc il existe une convention de la Constitution selon laquelle le Parlement britannique ne peut intervenir dans les matières législatives qui ont été donc dévolues à l'Écosse qu'avec le consentement du Parlement écossais. Il s'agit donc là d'une règle qui donne tout son sens à l'arrangement établi en 1998, mais là encore, elle n'est en aucun cas juridique. Alors pourquoi ? Eh bien précisément l'actualité l'explique parce que le Parlement récemment, le Parlement écossais, pardon, a récemment, c'est-à-dire il y a quelques semaines, refusé la loi adoptée par le Parlement britannique sur le Brexit. Précisément, cette loi a été rejetée en vertu de cette convention, donc rejetée par le Parlement écossais. C'est l'un des rares cas, il y a eu un seul cas de refus, un seul cas de loi britannique refusée donc par le Parlement écossais. Si une telle règle, et quoi qu'on pense du Brexit, mais si une telle règle s'avérait juridique et donc non sanctionnée, le Parlement britannique se verrait soumis à la volonté des parlementaires écossais et le processus législatif menant au Brexit, là encore quoi qu'on en France, serait totalement bloqué. Donc, maintenir une telle règle dans une sphère qui est purement institutionnelle et non juridique permet précisément de laisser son application déterminée par des circonstances politiques et d'éviter ainsi toute forme de blocage constitutionnel, instrument de souplesse. Je voudrais juste, et je finirai là-dessus, évoquer un autre cas de combinaison des règles juridiques et des conventions. Et j'en reviendrai à cette affirmation d'Anna Arendt, selon laquelle l'autorité requiert toujours l'obéissance. On la prend souvent pour une forme de pouvoir ou de violence, pourtant l'autorité exclut l'usage de moyens extérieurs de coercition, là où la force est employée, l'autorité proprement dite a échoué. Dans certains cas, en effet, la règle institutionnelle apparaît pré-juridique. C'est l'échec de l'autorité, le fait qu'une règle ne soit plus respectée, par elle-même et pour elle-même, qui nécessite cette traduction ou sa translation en des termes juridiques. On mentionnera ici un exemple peut-être plus familier que les histoires de dévolution écossaise. Que faire par exemple lorsque l'élection des questeurs de l'Assemblée nationale ne respecte pas une convention établie, celle selon laquelle un siège de la questure doit être réservé à l'opposition parlementaire. La convention semble violée, la règle institutionnelle ne suffit plus, elle est défaillante. Il s'agira alors d'en faire une règle juridique et donc contraignante. Ce qui a été fait, puisque désormais cette règle d'un des sièges de la questure à l'Assemblée a été adoptée et a été insérée dans le règlement de l'Assemblée nationale. Donc, et je finirai sur ce point, Monsieur le Président, le propos, donc j'en rajoute un peu, mais est particulièrement subversif, puisque le droit en matière institutionnelle n'apparaît que comme un correctif. Il ne devient nécessaire que lorsque les institutions défaillent. Et c'est finalement peut-être là un autre sens qu'il faut donner à l'affirmation de Benjamin Constant, selon laquelle toute constitution est un acte de défiance. Je vous remercie.